Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Je suis Anne-Charlotte Monneret, DG du réseau EdTech France, l'association des entreprises qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast. Aujourd'hui, nous accueillons Ronnie Germont, directeur de Quark Universities, une entité de l'entreprise EdTech Quark Education. Et ce pôle regroupe des formations 100% en ligne, que Ronnie nous détaillera, ainsi que la nouvelle Quark Academy, une école tech et business 100% dans le métaverse. Bonjour Ronnie, bienvenue parmi nous.
Bonjour Anne-Charlotte, merci de m'accueillir sur ce podcast.
Bah, je suis absolument ravie. Et avant que tu nous détailles tout ce que vous faites chez Quark, qui es-tu, Ronnie ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant de te lancer dans le grand bain de peut-être de la tech et de l'éducation d'ailleurs ?
Ah bah, bien sûr. Alors, j'ai eu un master à l'Université Technologie 3 en ingénierie et management. Ensuite, j'ai poursuivi avec un doctorat chez eux. Qui a été une expérience enrichissante parce que c'était un doctorat qui était sous la forme d'une thèse CIFRE. Donc, j'étais en entreprise et j'étais aussi en train de faire de la recherche académique. J'ai eu l'occasion pendant mon doctorat aussi de fonder une entreprise avec des camarades de classe. Et puis, à la suite de mon doctorat, on a fermé l'entreprise. On est parti vers divers horizons. Et moi, je suis parti vers le milieu de l'enseignement supérieur, particulièrement dans les écoles de commerce, parce que j'ai commencé à PSV, Paris School of Business, qui à l'époque s'appelait le SG Management School. Très vite au sein de PSB, j'ai été en charge de plusieurs choses, de l'incubateur, l'innovation pédagogique. On a eu l'occasion de faire 2 ou 3 MOOC, je crois. À l'époque, c'était tout nouveau, c'était un peu la hype du moment. Et puis après, je suis passé par le pôle Léonard de Vinci où j'étais directeur des pédagogies digitales et de l'innovation pédagogique, donc en charge de la transformation digitale de la pédagogie de l'ensemble des 3 écoles du pôle, le MLV, les SILV et l'IM. Et puis après, un petit passage par une EdTech et ensuite 2 ans là à l'IPAC Business School avant d'être embauché par Quark Education pour prendre la tête de Quark Universities qui regroupe 4 écoles, BTS Academy, Bachelor Academy, Master Academy, et puis Quark Academy, qui est l'école de la tech et du business 100% dans le métavers.
Génial, on sent l'esprit de synthèse, tu viens de nous résumer plusieurs années de manière parfaite. Si ça te va, je reviens sur la toute première brique qui est ton aventure entrepreneuriale que tu as citée. C'est rare les personnes qui travaillent dans l'enseignement supérieur et qui ont eux-mêmes entrepris. Est-ce que tu en tires des choses qui t'ont aidé ensuite dans ton parcours dans l'enseignement supérieur, des leçons ou des choses à ne pas faire ou à faire d'ailleurs ?
Alors oui, c'est assez particulier, mais j'ai eu la chance à l'UTT, donc l'Université Technologie 3, d'être dans un environnement où, bien qu'il y ait une certaine excellence académique, on favorise aussi beaucoup l'esprit d'entreprendre. Et donc, je trouve que ça allait ensemble. Et c'était pas du tout disjoint d'entreprendre, essayer de créer quelque chose. Et puis, de l'autre côté, oui, ce que ça m'a appris aussi de pas hésiter à faire ce saut vers l'inconnu, je pense, de pas hésiter à prendre des risques. J'ai aussi enseigné, entre autres, entre le management, la stratégie d'entreprise. J'ai aussi enseigné l'entrepreneuriat dans toutes les écoles où je suis passé. C'est souvent le message que je transmettais à mes étudiants, c'est n'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur de vous lancer. Et en fait, j'essaie de me l'appliquer à moi-même, cette maxime.
C'est génial. Et dans tes sujets de recherche, c'était en lien avec le fait d'entreprendre ou rien à voir ?
Alors, c'était généralement en lien avec... alors, je dis c'était parce que c'est un passé qui date d'à peine quelques mois, mais on a beaucoup travaillé avec mes collègues et sous l'impulsion particulièrement de mes collègues à Nan sur l'entrepreneuriat des publics désavantagés. Et donc, un public désavantagé, tout ce qui n'est pas, j'insiste sur le n'est pas, un homme blanc, hétérosexuel, sans handicap, pas formés. Donc ça laisse un champ qui est extrêmement large. Et donc avec Anan, on a travaillé sur les personnes en situation de handicap, les handipreneurs. C'était vraiment le premier sujet sur lequel on a travaillé. On a travaillé sur les femmes, sur les LGBT. On a monté des projets de recherche sur avec lui ou d'enseignement sur les réfugiés, sur les personnes incarcérées. Et on a même travaillé, avant que je m'en aille là, on a travaillé sur les femmes victimes de violences conjugales pour voir comment l'entrepreneuriat était vraiment une logique d'empowerment pour ce public particulier.
Génial, c'est hyper intéressant de relier entrepreneuriat et émancipation, c'est encore rarement fait. Et ensuite, tu es passé dans le bain du supérieur, comme tu disais, avec des expériences autant pédagogiques que dans des structures comme des incubateurs. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cet univers de l'enseignement, qui est quand même un monde spécifique, hein, qui avec ses forces, ses avantages, mais qui est pas forcément bien connu de l'extérieur, en fait.
Je dirais même pas le monde de l'enseignement supérieur privé, parce que là c'est aussi, c'est une culture particulière qui est complètement différente de ce qu'on pourrait trouver dans une université, qui est un monde qui, en plus, sur les dernières années, est allé de plus en plus vers de plus en plus de qualité avec des accréditations. Avec un processus d'accréditation, avec le renforcement de la recherche académique, et c'est aussi pour ça que j'arrivais. Mais c'est aussi dans l'idée, cette idée d'entreprendre, parce qu'en fait, c'est de l'enseignement supérieur privé. Donc, je suis passé dans des écoles à but lucratif et d'autres à but non lucratif, mais dans tous les cas, il faut maintenir un équilibre économique. Et pour maintenir cet équilibre économique, un peu comme toute entreprise, il faut savoir se différencier sur le marché, produire de la qualité, attirer des étudiants, les fidéliser, les former. Et puis je pense que ce qui m'a plu aussi à travers ce monde-là, c'est que je dénigre les autres mondes, mais c'est que je trouve qu'on a une mission noble, c'est celle d'éduquer les gens. De les aider à réfléchir par eux-mêmes et à construire leur pensée, et surtout à travailler leur employabilité. Donc faire en sorte que ce soit des gens qui après soient autonomes, s'émancipent, et donc ça, je trouve ça fabuleux comme secteur.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est aussi pour ça que je côtoie ce beau monde de l'enseignement supérieur, et c'est vrai que le monde du privé a ses spécificités aussi. Et tu as été dans des structures qui étaient en croissance, en expansion, si je dis pas de bêtises, à l'époque PSB, tu étais encore sur des petites promotions. Qu'est-ce que ça t'a apporté, et d'ailleurs, comment t'as fait le lien entre ce type de structure et Quark, parce que du coup, j'imagine que l'esprit d'entreprendre te titille toujours.
Oui, en fait, que ce soit PSB, que ce soit le pôle Léonard de Vinci, quand je suis arrivé, c'était pas des petites structures, c'était des structures de taille moyenne qui sont toujours en phase de renforcer leur situation sur le marché, le secteur des écoles de commerce post-bac, voilà, qui est encore une niche dans la niche des écoles de prix, oui. ou d'ingénieurs post-bac ou du digital post-bac en s'agissant du pôle Léonard de Vinci. J'ai eu la chance dans ces j'estime vraiment que c'est une chance, à chaque fois que je suis passé, j'ai eu la chance de rencontrer des gens, des directeurs surtout inspirants, inspirés et avec cette vraie volonté d'entreprendre, de créer, de se démarquer, d'innover, non pas pour innover, d'innover parce qu'ils avaient à chaque fois conscience du fait que sur le marché, les métiers évoluaient, que ils avaient le devoir de former des gens aux métiers d'aujourd'hui, mais surtout aux métiers de demain. Et donc ça, je trouve ça assez formidable. Et c'est un peu ça aussi qui est dans l'esprit de Quark Universities, puisque on est Quark est basé sur un petit organisme de formation entre guillemets. À date, quand je suis arrivé à la direction générale, on avait une formation. 150 étudiants. Là, à partir d'avril, on va en lancer une vingtaine, avec l'objectif d'être 1500 dans un an et demi. Donc, je suis dans une logique entrepreneuriale et dans une logique aussi de former au métier d'aujourd'hui, mais surtout de demain.
Et quand tu as découvert Quark, du coup, tu étais en poste au sein d'une des structures précédentes que tu as citées ?
Exactement. Souvent dans ma carrière, ça a été souvent des rencontres avec des hommes ou des femmes, hein, attention, mais surtout des gens qui ont été inspirants et qui toujours ont voulu repousser les limites avec une quête d'excellence sur chacune des écoles où j'ai pu passer, que ce soit Armand chez PSB, que ce soit Sébastien à l'EMLV, et que ce soit Alban chez Quark Education. Chacun, ils ont ce point en commun, de vouloir casser les codes, les lignes, et cette recherche d'excellence. Et donc ça, je trouve ça, c'est assez fabuleux. Et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une quasi carte blanche pour construire une école, un groupe d'écoles en ligne qui ne ressemble à aucun autre.
Génial.
C'était ça. C'est un peu aussi la logique qu'on a avec le métavers.
Ouais.
On s'est tout de suite dit pourquoi faire comme les autres quand on a la possibilité d'inventer de nouvelles règles. Et c'est vraiment ce qui a guidé notre action.
C'est génial parce que tu vois, je rejoins tout ce que tu dis sur des personnes qui sont innovantes et qui ont envie de s'adapter au futur et pas juste de le subir. Et Tech France fait partie du comité de perfectionnement hein, du pôle Léonard de Vinci. Et j'avais été impressionnée parce qu'ils ont tout un réseau de partenaires, des entreprises terrain, des employeurs qui viennent, qui donnent leur retour sur les nouveaux cursus qui sont lancés et qui du coup aident à faire en sorte que les formations qu'ils dispensent aux jeunes soient en accord avec les attentes du monde professionnel. Et du coup, je te rejoins et du coup j'imagine que Quark, comme tu avais carte blanche, c'était devenu peut-être un de tes prestataires. Tu les connaissais déjà en fait d'un point de vue technique ou t'avais même pas testé forcément?
Non, je les connaissais d'un point de vue technique. Je savais quel type de qualité ils pouvaient faire puisque voilà, ils nous ont accompagnés sur une des écoles sur la digitalisation des programmes. Donc c'était vraiment quand même assez exceptionnel ce qu'ils avaient pu faire puisque en 3 mois, on a digitalisé l'équivalent de 900 heures de cours. C'est avec une qualité qui était vraiment assez exceptionnelle. Et j'ai tout de suite perçu l'opportunité d'aller plus vite, plus fort, de prendre ce que moi j'avais pu voir dans le meilleur de l'enseignement à distance, mais surtout dans le meilleur de l'enseignement présentiel. À travers l'accompagnement des étudiants, à travers la fidélisation des différents publics, à travers aussi cette logique d'empowerment aussi qu'on retrouve dans toutes les écoles où on essaie vraiment de motiver pour aider les gens à se dépasser. Et c'est tout ça que je voulais remettre en place.
Et du coup, tu décides donc de quitter le monde des business schools pour Quark. Est-ce que la crise sanitaire, tu penses y a joué pour quelque chose? Est-ce que ça modifie ton quotidien aujourd'hui chez Quark comparé à ce que tu pouvais connaître avant dans le monde des business schools? Comment tu perçois l'impact du Covid sur ce monde de l'éducation aujourd'hui?
Je pense, je vais rentrer dans un lieu commun, mais je pense que ça a été vraiment un formidable facteur d'accélération. Et sur la digitalisation du présentiel, pour dire que oui, il faut intégrer un peu plus de présentiel, ça a été aussi, je pense, ça a ouvert les chakras de pas mal d'écoles pour dire, avoir un campus 100% en ligne, c'est possible et c'est possible en faisant de la qualité. Et puis, ça a aussi ouvert l'esprit sur que en fait, digitaliser, c'est pas juste allumer Zoom et puis faire un cours. Pas du tout, en fait. Et c'est même la pire des choses et c'est la dernière chose qu'il faudrait recommander. Digitaliser, ça s'anticipe, ça se scénarise, ça mérite de l'accompagnement d'ingénieurs pédagogiques, ça mérite qu'ils sont là pour faire en sorte que les briques s'agencent au mieux. Et donc, ça mérite un vrai travail de fond pour digitaliser correctement. Et je pense que ça a aussi ouvert l'esprit sur des gens, puisque bien sûr, hein, avec le Covid, je connais plein d'étudiants qui ont assez du virtuel, d'autres qui en sont complètement fans. Et donc aussi, de manière générale, ça a ouvert l'esprit sur le fait que il faut proposer différentes modalités, que ce soit du présentiel, que ce soit du online, que ce soit du digital, que ce soit du blended, quelle que soit la façon dont on imagine, mais il faut aussi proposer l'ensemble de ces choix à une communauté d'apprenants.
Complètement, et c'est ce qui commence à être compris par tous, et ça fait une vraie différence, même en termes de, tu parlais d'inclusion, en termes de diversité des profils qu'on est capable d'aller chercher en ligne ou en présentiel. T'as tout à fait raison. Et aujourd'hui, donc, tu es directeur de Quark Universities. Est-ce que tu peux nous présenter cette entité pour les personnes qui nous écoutent et le groupe Quark Education de manière plus générale, comme ça c'est bien clair pour tout le monde, ce que vous faites, la différence entre les deux, on t'écoute.
Alors, bien sûr, alors le groupe Quark Education, c'est un groupe qui a entre 15 et 20 ans, qui a été constitué à force d'agencement des différentes activités. Les premières activités qui désormais représentent chez nous Quark Media, c'est une chaîne locale, Demain TV, un média étudiant, ma chaîne étudiante. Ensuite, deuxième activité à l'origine du groupe qui s'est adossée à la première, c'est Quark Services, qui est spécialisé dans la digitalisation sur mesure de programmes de formation. Et qui est d'ailleurs du coup notre entité qui commercialise MetaQuark, ce campus un peu numérique, un peu iconique, et qui aussi s'occupe, c'est un peu la structure d'innovation, le lab de l'ensemble du groupe, qui donc s'occupe du métavers, mais qui a aussi un LMS, une application de révision sur smartphone, qui est en train de travailler aussi avec un autre partenaire sur une application de correction des devoirs écrits grâce à l'intelligence artificielle. Voilà, c'est vraiment notre laboratoire, en plus d'offrir des services vraiment très concrets pour accompagner des groupes d'enseignement dans la digitalisation de leur parcours physique. Ensuite, on a lancé deux nouvelles activités qui sont Quark Orientation, qui a pour objectif d'orienter des étudiants soit vers des formations en ligne ou présentielles en fonction de leur profil. Et donc là, pour ça, on utilise une solution aussi parce qu'on a certaines valeurs et l'une d'entre elles, c'est la motivation avant tout. Donc, on utilise Assess First dans ce processus d'orientation de l'étudiant et de test de motivation. Et puis, on a Quark Universities, qui est donc mon entité. Et cette entité, vraiment, elle a la particularité donc d'avoir trois écoles qui sont par niveau d'études. Okay. BTS Academy du pré-bac au bac plus 2, Bachelor Academy pour des bachelors en 3 ans ou en 1 an, et Master Academy pour des masters en 2 ans ou en 1 an.
Okay.
Sur plein de secteurs d'activité, ça va de l'entrepreneuriat, le marketing digital, l'immobilier, la comptabilité, la finance, la communication, les ressources humaines, la paye, voilà, sur l'ensemble de ces secteurs. Et puis, aussi le digital avec des formations autour de développeurs web, etc. Et puis, Quark Academy, qui a une double particularité, l'hybridation des compétences entre la tech et le business pour fournir des bachelors ou des masters et la présence 100% dans le métavers de cette solution.
Et justement, tu vas nous détailler un petit peu cette nouvelle formation sur le métaverse. En plus, vous êtes avec un super partenaire. Mais juste avant ça, je voulais revenir sur ton offre 100% en ligne, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se lancent par des pure players, par des acteurs traditionnels de la formation, par des toutes petites edtech aussi qui se lancent. C'est un marché extrêmement concurrentiel, notamment aussi avec le CPF, hein, qui permet à n'importe qui d'aller faire des formations aussi dans son coin sans passer par une structure. Comment se différencier? Qu'est-ce que tu préconises pour se différencier sur ces segments, et en plus tu en as qui couvrent différentes tranches d'âge, donc c'est d'autant plus complexe.
Alors vraiment, et c'est vraiment une leçon que j'ai apprise en passant par des groupes d'enseignement physique, des écoles de commerce, des écoles de qualité, c'est l'expérience étudiante. C'est vraiment sur ça et c'est vraiment la qualité de l'expérience étudiante qui est au cœur de notre réflexion. Et donc, comment ça se matérialise à la présence d'un coach qui va coacher nos étudiants. Et j'insiste sur un coach et pas de plateforme téléphonique. Chez nous, pas de plateforme téléphonique pour coacher nos étudiants. C'est un coach, il suit durant l'année maximum 50 étudiants. C'est toujours le même de ton premier jour à ton dernier jour. Donc ça, c'est un vrai facteur de réussite et d'accompagnement et de motivation. Deuxième facteur, c'est aussi, et ce qui se base sur le fait qu'on est ce laboratoire qui fournit des solutions EdTech innovantes, on a notre LMS qui permet d'organiser le coaching, qui permet également de suivre la progression de nos cours et qui permet aussi d'ajouter une couche de social learning. On a une vraie importance aussi des classes virtuelles et des séances de feedback en direct où on débrief. On a également une logique qui est très différente aussi, c'est que on est, alors en anglais on appelle ça cohort-based learning, mais en fait l'idée c'est que chez nous, il y a une rentrée, c'est toujours autour du 15 du mois, donc on a certes 10 rentrées, ce qui est beaucoup plus important qu'une école classique, mais on n'est pas sur une rentrée au fil de l'eau, c'est-à-dire que si vous candidatez chez nous lundi, votre dossier il est accepté mardi, mercredi vous rentrez sur la plateforme, ça fonctionne pas comme ça chez nous. Chez nous, vous candidatez en fonction de quand vous trouvez dans le mois, vous êtes placé sur l'une ou l'autre des cohortes. Et forcément, on commence par ce qu'on appelle chez nous du coup des induction day, où on travaille autour des valeurs, on travaille autour des soft skills, on travaille autour des compétences fondamentales de manager. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va avec le socle. On a bien sûr, donc je reviens sur la plateforme, bien sûr on a des quiz, des exercices, beaucoup de cas pratiques et d'études de cas, et cette volonté aussi d'organiser des cohortes, ça nous permet aussi de planifier des serious games où on met vraiment les gens en situation, donc ça c'est vraiment un point important. Et puis l'idée que vraiment on se sent jamais seul et qu'on veut être à visage humain. C'est vraiment ce qui va, ce qui fait la différence dans ce que on est en train de construire. Et puis sur ceux qui seront sur le campus, notre campus dans le métavers, on a un certain nombre de choses qu'on veut mettre en avant. J'aime bien c'est une espèce de mot valise que j'aime bien, c'est le art-architecture. J'aime bien le art-architecture. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on a comme volonté dans ce métaverse, il y aura on a une salle d'exposition permanente d'art virtuel qui va avoir lieu. Elle aura un double intérêt, introduire l'art dans le campus, dans le métaverse, de l'art virtuel, nouvelle forme d'art, donc ça c'est aussi à prendre en compte. Mais aussi un lieu d'enseignement in situ pour typiquement nos bachelors culturels et artistiques. Pour leur dire, ben voilà, en fait, avec des conférences, de l'animation, de la vie qui intervient. Et puis, architecture, parce que on a la chance d'avoir un campus qui va se transformer au fil du temps pour se rapprocher le plus possible de ce qu'a imaginé Manal Rajdi, qui est l'architecte de ces campus.
Génial. Et du coup, donc concrètement, donc la Quark Academy, on est 100% dans le métaverse et tu as un campus qui est conçu en ligne et dans lequel les étudiants peuvent se balader. C'est ça, si on est vraiment dans le concret pur.
Exactement. Au lieu de, en fait, tout simplement, au lieu d'ouvrir Zoom pour à faire un cours, ben, ils vont sur le campus comme ils iraient sur le campus du Paul-Léonard de Vinci à la Défense. Ben chez nous, ils se connectent sur leur navigateur et ils marchent vers leur campus. Leur campus en ligne.
Et d'un point de vue apport pour l'apprenant, peut-être que tu allais enchaîner là-dessus. Qu'est-ce que, enfin moi je sais ce que ça apporte, mais est-ce que tu peux nous dire ce que vous pensez que ça apporte en plus à l'apprenant? Pourquoi est-ce que vous avez lancé ça, sachant que c'est loin d'être un gadget techno, hein, il y a des apports très concrets. Mais si tu pouvais nous les lister, comparé à une formation digitale plus classique, justement avec de la classe virtuelle et une simple plateforme.
Alors justement voilà, c'est parce que c'est parfois un message que j'entends de beaucoup de gens qui disent bon c'est un truc de la hype parce que Facebook en a parlé et voilà et c'est un gadget comme un autre. Moi je dis non parce qu'en fait c'est pas juste maintenant en fait que c'est apparu les serious games, c'est pas juste ils sont pas sortis du chapeau comme ça d'un jour à l'autre du tout, ça fait 20 ans qu'on a des milliards qui sont investis, plus de 20 ans qui sont investis dans l'industrie du jeu vidéo pour créer des jeux vidéo de plus en plus réalistes, de plus en plus engageants, de plus en plus performants graphiquement, de plus en plus performants en termes d'utilisation de ressources. Et donc, c'est une économie qui pèse beaucoup plusieurs milliards. Et en fait, cette apparition des serious games, donc qui est en fait une déclinaison du jeu vidéo à destination des apprentissages, de l'éducation, etc., depuis 10-15 ans à peu près, hein, si on doit un peu dater les choses comme ça au doigt mouillé, hein, on pardonnera si c'est plus ou moins. L'idée, c'est que on a essayé d'appliquer tous ces principes qu'il y avait dans les jeux vidéo en termes d'engagement, en termes d'engagement et de suivi des jeux vidéo à des situations d'apprentissage, de transfert des connaissances. Et donc, justement, ce métavers, qu'est-ce que ça apporte de différent par rapport à un Teams, à un Zoom, etc. C'est le sentiment de présence virtuelle qui se base sur des approches issues des sciences cognitives, qui dit que, en fait, on a un sentiment de présence virtuelle qui se produit et qui fait que on a un sentiment de présence de soi. Et ça, c'est notre avatar qui l'incarne. C'est aussi pour ça que l'avatar et toutes les questions éthiques qui peuvent tourner autour de l'avatar sont vraiment des choses clés. Est-ce qu'un avatar doit vous ressembler? Est-ce qu'il doit reproduire un handicap? Est-ce que il doit vous ressembler ou il doit ressembler à votre identité de genre tant que vous la concevez? C'est vraiment important parce qu'en fait, le fait de s'identifier pleinement à son avatar va faire qu'on va s'investir beaucoup plus dans la situation d'apprentissage. Deuxième chose, il y a le sentiment de présence spatiale. On n'est plus sur quelque chose de flat, un écran et on regarde quelqu'un. Il y a cette trois dimensions où on voit un espace, on est immergé dans un espace qui aussi participe à un meilleur apprentissage. Puis deuxième chose, sentiment de présence des autres. C'est pas la même chose de percevoir quelqu'un en trois dimensions que de l'avoir juste en flat, même chose sur un écran. Et donc tout ça associé avec des principes aussi pédagogiques de variation des modalités d'apprentissage. Chez nous, on a dans le campus, on a aussi bien des amphithéâtres pour être vers du descendant, des salles de workshop où on a la possibilité d'être tous ensemble, puis en petits groupes avec l'intervenant qui vient pour qu'on travaille ensemble, des salles juste de bureau, des salles d'ordinateur, etc., etc. Tous les scénarios pédagogiques qu'on pourrait retrouver de base dans une école qui se retrouvent. Et donc, tout ça associé fait que on a un meilleur apprentissage qui est envisagé et qui est prévu.
Génial, et tu nous parlais justement de l'avatar, tu parlais d'inclusion et d'importance dans la construction justement de cet avatar. Est-ce que c'est l'étudiant qui crée lui-même son avatar? Est-ce que vous donnez des modèles? Comment ça se passe techniquement à ce niveau-là?
Alors techniquement, ça se passe très simplement, l'étudiant met une photo de lui, donc celle dont il est plus satisfait, l'ordinateur fait un scan et en gros le virtualise et après il peut customiser cette photo. C'est un peu l'idée de la construction de l'avatar et il choisit la façon dont il souhaite être représenté dans ce monde. Voilà.
Génial. Et après, en termes de lien avec le jeu vidéo, tu en parlais beaucoup. En effet, ça fait 20 ans que on travaille là-dessus. Et du coup, l'étudiant, il peut se balader dans un monde qui est semi-ouvert avec, j'imagine, des salles pour tel ou tel cours, ce genre de choses. C'est bien ça?
Exactement. Il se balade dans un monde semi-ouvert où il a un hall principal qui est un peu un des premiers lieux de rencontre. Il a une galerie d'art qui est un des espaces de socialisation qu'on a prévu également, mais on a prévu également, et c'est là aussi on essaie d'apporter des services, on a prévu une salle qui va être un bureau des étudiants, une bibliothèque aussi qui est prévue, un learning center qui est prévu, et tous ces espaces sont prévus pour que notre métavers soit un lieu à apprendre ou apprendre, un lieu à vivre et un lieu aussi où on échange et on collabore.
Et du coup, donc ça, c'est la partie pédagogique, échange, groupe de travail, vie étudiante. Il y a une partie qu'on aime un peu moins en école, qui est le moment des examens. Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe aussi à 100% dans le métavers? Est-ce que vous en sortez pour ce moment-là? Comment ça se passe?
Alors, je dois avouer que c'est un de nos gros sujets de réflexion, tant au niveau technique que pratique, en ce moment, les examens. Parce que on a une double chance, c'est que d'une part, on a un outil qui fonctionne, qui est issu de notre partenariat avec Manzalab, qui est un des spécialistes mondiaux, européens, français sur vraiment les serious games, la réalité virtuelle. Donc, ils ont une solution qui est la base de ce qu'on est en train de faire, qui s'appelle TeamU. Nous, on travaille en ce moment beaucoup avec eux sur les cas d'usage et la transposition de cette solution au monde de l'éducation. Et donc c'est un de nos points en ce moment vraiment de réfléchir à est-ce que on peut offrir tous les gages de sécurité, confidentialité, d'être sûr que ce soit la personne qui ait passé l'examen qui le passe, etc. dans le métavers. Dans tous les cas, nous en interne, on a déjà une solution via notre LMS qui nous permet de faire passer des examens sécurisés en ligne avec des outils de proctoring, etc. Mais voilà, c'est comment on fait le lien entre ces deux-là et c'est une question qu'on n'a pas encore tranchée.
Que tu trancheras sans doute de différentes manières avec les évolutions qui vont arriver. J'avais une question sur le fait que ça soit un monde ouvert. Est-ce que il y a une volonté aussi de communiquer avec d'autres établissements du supérieur, avec d'autres structures de formation à terme, ou est-ce que le but est vraiment de garder vos contenus, garder vos étudiants et de rester dans quelque chose de fermé? Parce que c'est vrai que comme tu parles de semi-ouvert, la question arrive relativement vite.
Alors justement, mais c'est d'ailleurs la philosophie de base du MetaQuark, c'est qu'on veut en faire un monde interconnecté et que ce soit pas uniquement juste un groupe qui a son truc à lui dans son coin et qui partage pas, qui échange pas, etc. C'est pas l'idée. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous a rejoint la Fondation UNIT qui va avec l'ensemble de ces écoles membres, enfin une partie de ces écoles membres qui se sont portées volontaires, tester plein de choses sur le métavers pour voir justement comment on construit cette collaboration. Mais il est conçu déjà à l'origine pour se dire que les frontières entre les campus de chacun de nos clients peuvent s'effacer et être interconnectées.
Génial. Donc s'il y a des établissements qui nous écoutent, tu les invites à t'écrire pour en parler plus en détail, c'est ça?
Exactement.
Et en termes de public, est-ce que vous avez une visée particulière pour la Quark Academy? Est-ce que c'est plutôt des jeunes, plutôt des pros, plutôt tout? Parce que c'est vrai que le 100% en ligne, il y a aussi cette question de la fracture quand même qui demeure aujourd'hui. Donc, qui vous visez avec ce type de formation?
Alors, on vise différents publics. On a un premier public aussi qu'on veut viser. Ce sont les femmes. On a prévu, ça c'est un petit scoop, le lancement d'une bourse pour financer l'intégralité des frais de scolarité pour environ une dizaine de femmes. On est en train de définir les profils, mais on a une préférence pour des femmes issues des QPV, etc., pour financer leurs études dans la tech sur notre campus, qui s'appellera Digital Leader, donc Lead et Heure, voilà, l'idée c'est ça. Mais notre objectif c'est aussi de passer beaucoup par l'alternance. Ça c'est un de nos points importants et aussi des gens qui sont dans une situation de reconversion professionnelle. Alors l'alternance, pourquoi? Parce qu'on a conçu le rite, même si c'est pas obligatoire, pour être un rythme qui permet au mieux d'associer études et expérience en entreprise, parce que c'est quelque chose qui aussi dans l'ADN de notre groupe nous semble fondamental.
Et l'ADN tech est aussi très fort. Hein. J'imagine que le positionnement de l'école n'a pas été choisi par hasard. Vous ciblez aussi des personnes issues de ce monde de la tech et du digital?
Des personnes issues de ce monde-là ou qui souhaitent le rejoindre, oui, c'est vraiment l'idée. Mais pas que, puisqu'on a des ça paraîtrait presque classique de dire ça, mais on cible aussi beaucoup des gens dans le secteur de la vente et du commerce parce que, en fait, on a un double pilier, c'est cette transformation digitale, mais aussi former des gens dans des métiers en tension. Et donc, on a dans la vente, la tech, le commerce, la négociation, etc. La négociation et la vente qui paradoxalement, avec le temps, particulièrement dans les écoles de commerce, sont devenus des secteurs qui sont en fait qui ont été délaissés et donc qu'on veut réinvestir parce que justement on a vraiment besoin d'énormément de commerciaux, de vendeurs qui soient aguerris et c'est aussi un secteur qu'on veut investir.
Complètement d'accord avec toi. Et en termes de velléité à l'international, est-ce que ça fait partie de la feuille de route que d'aller former des populations qui sont peut-être dans des zones un peu moins favorisées où il y a moins d'établissements du supérieur? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Je pense notamment au continent africain. Hein, où on sait qu'il va y avoir des enjeux énormes de formation. Comment vous vous positionnez là-dessus?
Alors, notre internationalisation, elle est en deux temps. On adresse le monde francophone. C'est pas uniquement que la France, on adresse le monde francophone. Okay. Et donc l'idée c'est que tout le monde francophone, on va commercialiser l'ensemble de notre offre à l'ensemble de ce monde francophone, et que dans deuxième temps, on ira plus vers le monde anglophone pour aussi commercialiser notre offre.
Génial. Et déjà, rien que le monde francophone, ça fait pas mal de monde à aller former. C'est bon. Et tu connais donc très bien hein, le marché de l'enseignement, si on peut l'appeler marché. Tu as occupé différents postes. Tu as mis les mains dans le cambouis et les mains dans la stratégie selon les différentes étapes de ta carrière. Est-ce que tu as une vision aujourd'hui de l'écosystème EdTech? Parce que tu as côtoyé notamment des entreprises prestataires ou partenaires sur tout un tas de projets. C'est quoi ta vision du marché aujourd'hui? Et surtout, est-ce que tu trouves que ça a autant changé que ça post-crise sanitaire?
Alors, je trouve que, et ça c'est pour avoir aussi travaillé avec pas mal de EdTech, aussi parce que j'étais chargé de l'innovation pédagogique, donc j'étais une tête chercheuse en EdTech pour voir quelles étaient celles qui pouvaient servir des besoins pédagogiques. Je trouve que la France a une chance. Alors je suis peut-être un mauvais connaisseur des EdTech à l'international, mais je trouve qu'on a quand même un secteur EdTech qui est quand même assez bouillonnant. Qui a la chance quand même d'avoir aussi de belles valeurs dans l'ensemble, et donc ça aussi c'est pas anodin, et je trouve que c'est quelque chose d'assez formidable. La seule chose que et ça c'est souvent je le disais souvent à certains clients quand j'étais en école de commerce, c'est que souvent on me présentait des solutions qui étaient révolutionnaires. Et en fait, qu'il n'était pas, je leur disais, non, mais en fait, ça fait 10 ans qu'on le fait, sauf qu'on le fait avec des tableaux Excel. Voilà. Classique. Et que, avant de trouver une solution révolutionnaire, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir, est-ce que ça allait vraiment servir la pédagogie et est-ce que ça allait aider nos étudiants à apprendre et ça allait leur permettre de maîtriser de nouvelles compétences qui sont demandées sur le marché. Et je pense que c'est un peu la seule chose qu'il faut pas perdre de vue lorsqu'on est une EdTech, c'est que la première chose à faire, c'est est-ce qu'on sert le besoin d'un étudiant, d'un prof, d'un admin, mais est-ce qu'on sert vraiment ce besoin et est-ce qu'on n'est pas le gadget de plus? Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt.
Ouais, et d'où l'importance d'expérimenter sur le terrain, de lancer des phases pilotes avec des établissements, de se rapprocher de la recherche aussi, de travailler avec des labos. C'est que des bons leviers pour ne pas perdre de vue que c'est vrai que l'utilité, la pédagogie reste le fer de lance. T'as tout à fait raison. Ouais. Et d'ailleurs, vis-à-vis des prestataires avec qui vous allez travailler, donc là tu nommais Manzalab. Est-ce que vous avez d'autres connexions, d'autres liens avec des partenaires privés techniques sur l'aspect numérique ou pas forcément? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une vocation d'aller travailler avec d'autres acteurs de l'écosystème avec la Quark Academy?
Alors, bien sûr, on est en train de construire tout un écosystème. Donc déjà, en interne, on travaille avec Quark Services, qui est aussi notre laboratoire de recherche et d'innovation. On travaille avec Manzalab, qui est notre partenaire stratégique dans le cadre du lancement du métavers. Et qui est une bonne illustration de ce que tu viens de dire, qui a beaucoup travaillé avec des projets de recherche français, européens sur le digital, la réalité virtuelle, etc. Alors bien sûr, on travaille avec d'autres acteurs en ce moment. Donc là, on est en train de contractualiser ou de finaliser les offres. Donc pas trop en parler, mais on est en train de bien sûr que ce soit pour trouver un ERP, des solutions d'apprentissage des langues. Mettre en place notre galerie d'art, etc. Donc, on travaille aussi avec pas mal d'acteurs, avec le but de fédérer aussi un écosystème autour de ce métavers.
Génial, bah ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Tu vas te faire contacter par des milliers d'entreprises de tech. Non, je plaisante, mais en tout cas, c'est extrêmement précieux pour l'écosystème d'avoir des acteurs qui ont votre expertise de l'éducation, se lancer sur des problématiques aussi techniques et aussi sur des problématiques qui buzz pour montrer que justement c'est pas un buzz, mais que c'est vraiment quelque chose qui est important pour la pédagogie et pour une éducation plus inclusive. Rony, est-ce que tu as un mot de la fin? On arrive au terme de cette entretien, quelque chose que tu veux nous dire sur Quark, sur l'année 2022, des projets à venir, quelque chose que tu nous as pas dit et que tu veux nous dire?
Non, tout ce que je veux dire surtout, c'est que Quark Éducation recrute.
Eh oui.
On le sait plus que bien, hein, parce qu'on forme des talents, mais on a un vrai besoin de talents à tout niveau au sein de Quark Éducation, que ce soit au niveau marketing, vente, etc. On est en plein renforcement de nos équipes, donc n'hésitez pas à venir, à postuler sur les différentes offres du groupe. Et je pense qu'on est on n'est pas au début d'une belle aventure, parce que le groupe a déjà presque 20 ans, mais on est dans une nouvelle phase de développement qui va apporter pas mal de choses intéressantes, toujours dans un souci de qualité et dans un esprit de faire avancer la pédagogie et les méthodes pédagogiques.
Bah merci Rony, on terminera là-dessus. Merci pour cet échange, pour ta vision, pour la présentation aussi de tout ce que peut apporter la technologie au beau monde de l'enseignement supérieur. Donc merci pour tout, et dans tous les cas, on va continuer à vous suivre de près chez Quark.
Merci beaucoup pour l'invitation.
À bientôt.
Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter. Ce podcast vous est proposé par Maxime Maton et l'agence tech et créative Matoons.